Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et merci de nous retrouver une nouvelle fois pour cette émission de Pluriel Gay. Ce soir, nous allons entendre une émission réalisée au centre LGBTI, à laquelle participait Pluriel Gay, convié à enregistrer donc les interventions de différentes personnes qui assistaient à une soirée rencontre organisée par l'association FRIS. Alors, l'association FRIS que nous connaissons bien sur les ondes de Pluriel Gay, association féministe de prévention des risques, de réduction des risques et de santé sexuelle, a lancé une vaste opération mémorielle il y a déjà plus d'un an, de manière à collecter auprès de personnes privées, mais aussi d'associations et d'institutions, un certain nombre de documents, le plus de documents possible, témoins des luttes menées contre le VIH et le sida depuis les origines de la pandémie. Donc cette réunion qui avait lieu la veille de la journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida se tenait aussi dans le cadre de la présentation d'une première exposition qui était le fruit donc des premiers résultats collectés donc dans le cadre de ce projet. L'association FRIS animait le débat. Nous allons entendre Isabelle, animatrice volontaire de FRIS. Et puis, pour commencer, nous allons entendre la douce voix de Danielle Autier, militante, grande militante et aussi volontaire de l'association, bénévole de l'association FRIS, qui nous présente donc le projet Archives égale vie.
Si on a fait Archives égale vie, c'est quand même en piquant une idée d'ACT UP. Hein, vous avez reconnu Action égale vie, parce que pour nous, les archives, c'est de l'action. C'est de l'action qu'on met en mémoire quelque part pour pas perdre l'histoire de, pour pas perdre l'histoire des luttes. Le CRIPS, représenté par Léo ce soir, nous a beaucoup aidés. En nous communiquant des affiches, mais aussi des vieux CD faits par le Cadis Auvergne qui n'existe plus, sur plein de choses qui ne sont pas forcément utilisables. Et c'est là qu'on a mis le doigt sur la difficulté, même des institutions qui ne sont pas forcément viables à long terme, de garder des archives, parce que là, ça a été numérisé comme il le pouvait à Clermont à l'époque. Et c'est pas de bonne qualité. Sur les amis de Sida Info Service, c'est pareil. Comme ils ont subi des déménagements successifs, y a plein de choses qui se sont perdues. Après, on a eu des choses qui sont un peu plus récentes, mais on a, grâce à Aide Nationale, des affiches que vous pouvez voir là, on n'a mis que deux, ils en ont prêté cinq, du groupe sourd de Aide, parce que ça aussi, ça a été un gros souci dans la lutte contre le sida, parce que pour les personnes sourdes, le symbole, ce qu'on symbolisait comme le virus, pour eux, c'était le soleil. Donc il y avait vraiment besoin d'une démarche spécifique et Aide s'en est emparée. Voilà. Et puis, je vais laisser Isabelle prendre la suite. Léo, je ne vais pas
bien sûr
vous faire...
Alors très rapide, parce que ce n'est pas nous qu'on va écouter, puisqu'on a invité des personnes et justement, là, il y a... Vous voyez plusieurs micros qui se tendent, donc déjà on va vous expliquer pourquoi ils sont là, ces micros. Donc effectivement, en octobre, on a avec Roméo de Mémoire Minoritaire et d'autres, en fait, réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait constituer comme type d'archives. Donc il y a ces objets, des objets aussi qu'on va découvrir grâce à vous, et puis encore auprès d'autres personnes qui petit à petit vont rejoindre la collecte. Et puis on fait aussi des archives orales. Donc ce soir, en fait... On va enregistrer nos propos et on va en fait aussi les transmettre en même temps qu'on fera ce dépôt. Pour nous, c'est important puisqu'on s'est rendu compte quand on a cherché ces affiches que ces affiches, il faut leur donner un contexte. Sinon, on peut en fait même en avoir un contresens. Et puis aussi, ça peut nous faire nous réagir aujourd'hui en 2017 avec notre histoire, avec tout ce qu'on peut vivre ou ce qu'on a vécu, alors que les activistes ou les pouvoirs publics qui ont mis en place ces campagnes étaient dans un autre contexte, avaient d'autres objectifs. Donc le fait d'avoir ce que Daniel a appelé des grands témoins qui vont nous parler de leur histoire, ça va aussi donner donc un contexte aux archives que vous voyez ce soir autour de nous. Et ça va nous permettre aussi d'en avoir un autre rapport. Nous allons faire un voyage à travers le temps. On va se plonger dans la première campagne faite par les pouvoirs publics français. Et ça commence tout là-haut. Le sida, il ne passera pas par moi. À chaque fois qu'on fait ce projet autour du 1er décembre, on demande un peu à chacun, chacune, tiens, quelle est ta première fois où tu as entendu parler du sida? Et selon les générations, beaucoup de personnes nous parle de ce spot publicitaire ou de cette archive, de ce poster. Donc, on regardera cette archive ensemble tout à l'heure. Et puis, vous voyez, on a un peu symbolisé cet objet. Donc, on voit une personne qui casse une ligne. Pourquoi, en fait, on ne voit pas le préservatif, par exemple, comme on peut le voir sur d'autres campagnes publicitaires et d'une information un peu plus tard, ou par exemple, on peut le voir ici avec une seringue. À votre avis, pourquoi ? C'était à l'époque qu'on ne pouvait pas forcément faire la promotion du préservatif. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que comment évoquer la lutte contre le sida à une époque quand on ne peut pas évoquer les moyens de prévention de l'époque. On a aussi voulu un petit peu mettre en écho, donc effectivement, ACT UP New York, mais aussi les Sœurs de San Francisco, deux pôles en fait de la contre-culture et de la lutte contre le sida aux États-Unis qui ont beaucoup, beaucoup influencé les activistes français, mais pas que, bien sûr. Et donc régulièrement, vous verrez des affiches qui viennent de New York ou qui viennent de San Francisco. Des affiches qui ont été vues par ces militants, mais aussi ces soignants, par ces personnes vivant avec le VIH, d'autres qui sont malheureusement décédées. On a voulu vous amener toutes ces images parce que toutes ces images ont en fait créé d'autres images que vous pouvez voir sur les murs. On commence donc les toutes premières campagnes, New York, avant qu'ACT UP même existe, ACT UP New York. Des groupes d'activistes artistes vont s'appeler notamment Grand Fury. Et vous voyez la main rouge de sang. C'est l'une des premières campagnes d'affichage qui va se mettre un peu partout dans New York. Et puis vous verrez ce groupe en fait qui a fait plein de types d'affiches. Vous voyez aussi un groupe, les lesbiennes, Lesbian Furies de New York, ACT UP New York, là qui parle donc des droits des femmes en prison. Et vous voyez donc différentes formes d'expression, le patchwork des noms, qui nous vient aussi des États-Unis. Et puis vous voyez qu'en fait, on a beaucoup réfléchi. Il y a eu plein d'envies de présenter tous les objets que vous avez ici de façon très, très plurielle. En fait, on a passé quand même beaucoup de temps à réfléchir comment vous allez vous présenter ces objets. Et on a fait un travail tout en sous-groupe pour dire, quelle méthodologie, quelle logique. Et on a cherché un petit peu à représenter dans l'espace donc une dimension institutionnelle et puis les dimensions communautaires associatives. Et donc vous voyez qu'en fait, les choses se font écho, les campagnes se font écho. Là, on les a regroupées tous ensemble, pour aussi montrer que tout est relié. Et puis bien sûr, on a aussi eu une démarche très féministe, puisque vous voyez se faisant part de part et d'autre dans la salle, deux autels, celui des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, l'un des premiers groupes au monde à avoir fait un dépliant de Safer Sex et d'avoir mis en place un certain nombre de campagnes d'information. Il y a deux couvents à Lyon, le couvent des Traboules et le couvent des 69 Gaules. Et puis, dans la même diagonale, vous avez le Strass, qui a donc créé tout un univers onirique et tout à la fois réel, puisque les travailleuses et travailleurs du sexe, tout à l'heure prendront la parole et vous présenteront leur espace, ont été les premières et les premiers à faire de la prévention, sauf que ce n'est pas forcément sous mode d'affiche, puisqu'à l'époque, ils étaient, et parfois ils le sont encore, criminalisés. Et donc là, en fait, ça a été comme le proposent les féministes, comme nous le proposons, c'est-à-dire que quand il nous manque des bouts d'histoire, on recrée en fait cette partie-là. Donc tout à l'heure, les copines vous présenteront comment elles ont recréé en fait la réalité de l'action des travailleuses et travailleurs du sexe dans la prévention dès le début de l'épidémie. Et puis, c'est important de s'associer aux CRIPS, puisque Bah, peut-être un peu resituer peut-être vos collections et puis ce que vous faites.
Très rapidement, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Léo Calzetta et je suis coordinateur d'un programme qui existe dans notre région qui s'appelle le CRIPS, le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida, qui est un programme de, on va dire, de santé publique qui est porté par l'IREPS, l'Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé. On a été amené à être sollicité par FRIS pour travailler ensemble sur ce projet Archives égale vie. Parce que FRIS, disons, avait eu une bonne intuition, je dirais, qui était celle de penser qu'en effet, on avait pu conserver, puisque le CRIPS, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes dans notre région, mais initialement CRIPS-Rhône-Alpes existe depuis la fin des années 1990 et avait donc sans doute gardé aussi du matériel, on va dire, en termes d'affiches, d'informations, de prévention, qui ne date pas seulement des dernières années, hein, mais aussi des années 90. Alors c'était à la fois une bonne intuition, en même temps c'est vrai que du coup nous n'avons pas une mission à proprement parler d'archivage, hein, ce n'est pas ce qu'on nous demande, donc nous on est un centre de documentation, on travaille plutôt sur de l'actuel, ce qui n'avait pas empêché on va dire les salariés du CRIPS au fil des années, dont un ancien est présent ici, d'avoir aussi conservé certaines affiches, en fait, hein, dans nos locaux. On les avait conservées de façon un peu informelle et il m'a semblé intéressant de les mettre à disposition ici du collectif, hein, pour une présentation au public. Elles n'ont pas, je pense, vocation à rester dans nos placards. Le mieux, c'est effectivement qu'elles puissent être à la vue de toutes et de tous. Je trouve que le fait d'avoir travaillé sur ce projet a quand même généré beaucoup d'interactions très positives. C'est un projet qui, à mon sens, renforce l'action communautaire de façon très positive et très favorable. Donc c'est extrêmement intéressant de travailler dessus. Voilà, merci beaucoup.
Ces affiches, la plupart aussi, ont été aussi vues sur des blousons en forme de badge, vues aussi sur des pancartes, parfois vues à la télévision. Et puis tous ces objets, bien, en ce moment, sont dans un musée, pas très loin d'ici, à Genève, au musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour vous dire qu'en fait, il y a d'autres institutions qui sont en train de réfléchir à ce patrimoine et à le présenter, ce patrimoine. Et puis, il y a également le MUCEM à Marseille, qui a toute une collection depuis plus d'une dizaine d'années d'objets de la lutte contre le sida. Et dans 2 ans, il y aura une grande exposition. Pour vous dire qu'on est dans ce contexte, en fait, mémoriel et de lutte à la fois d'aujourd'hui et aussi d'intergénérationnel, les affiches, ce qui est intéressant, c'est que c'est un superbe miroir pour se refléter, en fait, et pour échanger.
C'est vrai qu'on se place dans un contexte, et tu l'as dit très justement, où on voit qu'il y a différentes initiatives, pas forcément d'ailleurs concertées les unes avec les autres, mais de réappropriation de la mémoire, que ce soit des anciennes générations qui ont pu connaître effectivement ce qu'on appelle les années sida et les personnes décédées, et en même temps de nouvelles générations, alors ces anciennes générations qui ont depuis a priori, enfin ou en tout cas semble-t-il, fait le deuil, ou en tout cas c'est en cours de faire ce travail un peu de deuil sur les personnes disparues, et je dirais les nouvelles générations pour une partie d'entre elles en tout cas, ont a priori aussi là cette envie de redécouvrir ce pan de leur histoire, et quelque part ça devient en quelque sorte une fierté supplémentaire.
Alors, pendant les discussions vont défiler plein d'affiches qui sont issues d'une collection qui a été collectée par nos partenaires d'Actis, association de lutte contre le sida de Saint-Étienne, et par, faudrait leur rendre un hommage, Jean-Marie Romance, qui ne peut pas être avec nous. Jean-Marie est décédé du VIH. Et Thierry, qui vient de prendre sa retraite en tant que militant. Mais ils ont mis des années, il y en a plus de 1000 sur tous les pays du monde, et c'est quelque chose qui est scanné, qui est exploitable, et on leur a suggéré de faire un dépôt aux archives de cette belle collection.
Donc, je m'appelle Sabrina et aide-soignante depuis 10 ans. Et donc, j'ai accompagné des personnes atteintes de sida, que ce soit dans l'aide à domicile ou dans des services à l'hôpital. des personnes qui avaient besoin de se confier. Ils avaient un peu du mal à vivre la maladie et à en parler autour d'eux parce qu'ils avaient l'impression de qu'on les jugerait et ils avaient l'impression qu'ils avaient le mot sida affiché sur leur front. Et donc, en gros, ils restaient souvent chez eux, voire cloîtrés chez eux pour éviter le jugement des autres. Parce qu'il est arrivé que dans le cadre de leurs soins, ils puissent bénéficier d'aides à domicile. Et beaucoup d'aides à domicile ont refusé, par exemple, de s'occuper d'eux en pensant qu'en fait, ne serait-ce que de rentrer en contact avec des objets, je ne sais pas, des éponges ou des choses comme ça, ils allaient attraper le sida. Donc, ils étaient persuadés que... En fait, ça les a bloqués d'avouer leur maladie. Et en fait, quand ils ont révélé leur pathologie aux aides à domicile... beaucoup sont partis un peu en courant en pensant que je te touche, tu vas être malade. Donc j'ai essayé de les accompagner au mieux, et puis de les rediriger par des connaissances que j'avais qui pouvaient les contacter. En Ardèche, à Nonnet, il n'y a pas d'association là-bas, donc c'est vrai que c'était compliqué. Enfin, c'est compliqué aussi pour eux de se libérer, on va dire, d'un poids et de pouvoir être accompagné. Mais moi, du coup, en venant ici, j'ai essayé de rester en contact avec eux et essayer de les aider. En ayant des infos, en leur donnant des adresses mail, de regarder sur la page Facebook du centre. Donc voilà, mais d'une certaine manière, j'ai voulu témoigner pour les encourager et leur dire que, quelque part, je suis, on va dire, leur porte-parole ce soir aussi pour les aider et leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à avoir honte d'avoir le sida. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens pour essayer de les écouter, de les soutenir jusqu'au bout. Parce que j'ai des personnes en fait qui ont été contaminées par le sida en fait, par les poches de sang faites dans les années 80. Donc j'ai deux personnes qui ont été contaminées, ils ont eu deux gros accidents, donc ils ont eu on leur a mis du sang et ces poches de sang ont été contaminées, donc indirectement à l'époque, il n'y avait pas tout ce système qu'on pourrait avoir maintenant. Et les deux autres personnes que j'ai pu accompagner, c'était des personnes qui ont contracté par le biais de personnes, enfin par des rapports non protégés.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Patrick Pelège. En fait, je suis le dinosaure de la soirée, puisque moi, j'ai démarré ma vie dans la lutte contre le sida en 1986. Donc vous voyez, c'est avant les premières affiches nationales. Voilà, donc j'ai eu un parcours de citoyen, de vieux gay, entre guillemets, de chercheur aussi. J'ai été très engagé dans la lutte contre le sida pendant, on va dire, 25 ans de ma vie. Et c'est vrai que je me suis mis un peu en retrait. J'ai été directeur du CRIPS, entre autres, pendant plusieurs années, de 2000 à 2006. Et moi, j'ai démarré mon engagement dans la lutte contre le sida en 1986 à Grenoble. Donc j'ai été un des cofondateurs de AIDE Grenoble. Donc en 1986, on était le troisième comité de AIDE après Paris, après Marseille et à Grenoble. Et nous étions le premier comité mixte. C'est-à-dire il n'y avait pas que des homos, il y avait des hommes, des femmes, il y avait des soignants, des non-soignants. Donc, et on a eu fait d'ailleurs les premières assises de la Fédération AIDE à Grenoble en 1988. Oui. Ensuite, ma vie personnelle et professionnelle m'a amené à Lyon. Et à Lyon, nous avons monté une association qui s'appelait Système D, que Daniel t'a peut-être connu, qui était un peu, on va dire, je peux le dire publiquement, parce qu'il n'y a pas de... il y a prescription, qui était un peu une association contre l'ALS, puisque à Lyon, il y avait l'ALS et à Lyon, c'était la... Dans, à l'ALS, il n'y avait que des médecins. Voilà. Et nous, on représentait les malades, les personnes atteintes et aussi les non-médecins. Donc, système D, ça a été... c'était un peu... Bon, c'était très Croix-Rousse. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Les pentes... voilà, dans l'héritage historique que vous connaissez, des canuts, tout ça. Enfin bon, bref, c'était Croix-Rousse. On a monté un comité aide sur Lyon, voilà, qui est devenu, d'ailleurs, qui existe toujours. Et puis, de fil en aiguille, on a monté des permanences qui ont été rappelées pour SIDA Info Service, hein, parce qu'il y avait des salariés le soir de 19 à 23 heures. C'était mené par les comités de aide et les associations, dont j'étais un des acteurs, en tout cas en région, ont beaucoup milité et acté politiquement pour que les personnes atteintes, les associations, les mobilisations publiques, collectives, les manifestations, changent quand même les politiques publiques. Hein. C'est vrai que ça a été... Et Daniel Defer, qui était l'ami de Michel Foucault, que j'ai la chance de bien connaître, qui était sociologue aussi, comme moi, et qui a parlé... que le malade du sida était un réformateur. C'est-à-dire, c'est vrai que les acteurs de la lutte contre le sida ont quand même permis que la douleur soit prise en compte, qu'il y ait progressivement des programmes d'aide aux malades, qu'il y ait des programmes aussi de recherche. Après, moi, j'ai fait partie des gens aussi, on a monté Kabiria, en milieu prostitutionnel. J'ai été à l'époque très, très engagé dans cette dimension, et puis après, ben voilà, j'ai été directeur du CRIPS, et vous avez vu sûrement le film, là, 120 battements, bon, nous, on n'était pas très, enfin, moi, je peux le dire, parce que ACT UP, ils étaient justement dans l'agitrope, dans l'agitation, et nous, à AIDE, on se voulait beaucoup plus, d'ailleurs, dans l'aide aux malades, dans la prévention, comme acteur de santé publique, mais bon, on se connaissait, à Lyon, ACT UP n'a pas été très, très présent, quasiment pas, hein. À Paris, ils étaient beaucoup plus virulents, à New York aussi, évidemment. Mais alors, nous, on était un peu plus province, entre guillemets. Voilà, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore sûrement des combats à mener. Enfin, l'épidémie a changé de configuration. J'ai travaillé en Afrique il n'y a pas très longtemps sur des programmes de santé sexuelle. Je trouve qu'aujourd'hui, on a élargi aussi... à partir de VIH-SIDA, un élargissement à ce qu'on appelle la santé sexuelle, je trouve tout à fait intéressant parce que les gens que je représente, hein, les vieux témoins, les anciens témoins, on a beaucoup, ça nous a permis aussi d'élargir nos horizons, nos actions et nos réflexions aussi.
Tu évoquais donc l'association des pentes. Est-ce que vous aviez des affiches, des flyers? Comment vous faisiez? Est-ce que vous avez créé un fanzine? Est-ce que...
Sûrement. Il y avait des radios, je vous rappelle, il y avait beaucoup de radios...
Il y avait les radios libres.
Libres. Il y avait, j'ai souvenir, sur le plateau, il y avait... Je crois que c'était la maison des usagers de la santé.
Il y avait un réseau santé, voilà.
Qui était un lieu alternatif où justement, on va dire, le soin et le prendre soin se faisait avec d'autres pathologies, entre guillemets. Hein. Donc ça, j'ai souvenir que c'était un diffuseur de pratiques. C'était très festif, parce que c'est vrai que la majorité des gens qui étaient engagés, c'était quand même des personnes qui avaient des réseaux. Et du coup, je pense que de fil en aiguille... Comme dans les patchworks, c'était très tissé. Le tissu, il n'était pas via Internet. Et pour cause, on ne va pas vous faire... parce que ça n'existait pas. Mais il y avait quand même des téléphones. Voilà, donc le Minitel, bah, c'était quand même un mode de diffusion, de connexion. Hein. Il y avait aussi, je pense, quelque chose qui est moins présent aujourd'hui, paradoxalement. C'est que les médias, alors les journaux, les télés... Comme c'était quand même une maladie étrange, tabou, bizarre. Voilà, il y avait la toxicomanie, l'homosexualité. Du coup, y avait quand même des alliances avec des médias.
L'année dernière, on a donc effectivement été, et puis les années d'avant par rapport au patchwork, tu nous as fait broder en fait le logo de Rupture. C'était quoi Rupture, peut-être pour expliquer aux personnes?
C'était une boutique. Accueil des drogués, quoi, comme on disait à l'époque.
Oui, on disait les drogués, les toxicos.
Tout à fait. Les tox.
Les tox.
Voilà.
Et ce logo, il a été brodé par le premier président de l'association Rupture, qui était une association d'auto-support, qui s'est créée en 1994. Et c'était un usager de drogue qui est décédé il y a 3 ans du VIH. Et c'était une seringue carrément. Et tout le challenge, c'était de faire reconnaître une asso qui a, parmi ses membres, de manière visible, dont moi, des personnes usagères de drogue. Pour qu'on soit financé par l'équivalent de l'ARS, etc., il a fallu quand même que le ministère de la Santé nous envoie une délégation pour imposer un peu le fait que maintenant, voilà, il y avait un arrêté ministériel qui permettait de mettre à disposition à la fois des préservatifs et des seringues, et que les associations avaient le droit de le faire. Mais ça, il a fallu qu'ils le fassent comprendre à nos élus et à nos financeurs potentiels lyonnais.
Alors pourquoi, par exemple, donc, sur notre joli mur, on voit bien, donc, on voit cette campagne qui est là-haut avec cette seringue et préservatif. Pourquoi, en fait, on n'a pas d'affiche de rupture sur nos murs?
Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, et la mémoire de rupture, encore une fois, Roméo est bien placé. C'est plus Bruno Herail, comme il est aussi la mémoire de Système D, qu'il a et que Roméo va interviewer. Enfin, moi, je le pousse très fort pour ça. Parce que les assos, comme on le disait maintenant, n'ont pas forcément les moyens ni la volonté de garder des choses, parce qu'il faut réaménager les locaux, avoir plus de place pour l'accueil, pour ci, pour ça, et que finalement, c'est d'autres équipes, d'autres personnes.
Moi, c'est Roméo, je m'occupe de la commission archives et bibliothèques au centre LGBT. Et je suis très content d'entendre parler de rupture, parce que la semaine dernière, j'étais au CEDRA, qui est juste derrière, à 50 mètres en fait. Et je travaillais sur les archives de Bruno Herail, qui a été plusieurs fois cité. Et donc, juste à côté de ces archives, on a 2-3 cartons avec rupture marqués dessus. Mmh. Donc les archives de rupture sont à 50 mètres, juste là. Donc voilà, donc peut-être par la suite, on pourra aller faire fouiller là-dedans. Et il y aura sûrement quelques traces encore. Et donc c'est super, ça va permettre de rebondir avec ces témoignages et de faire émerger de nouvelles archives. Donc voilà, c'est des moments importants.
Au CRIPS, il y avait énormément, il y avait un journal du SIDA, on avait les bulletins quotidiens de ce qui concernait l'information sur le SIDA, comme à Paris et de France. Donc on avait des masses d'infos, d'outils, d'archives, de documents. J'ai souvenir d'avoir transmis, d'avoir donné, entre guillemets, je ne sais plus par contre si c'était les archives municipales ou les archives départementales. Mais normalement, ça doit se retrouver... celles qui sont dans le fort, là.
Je pense que ce sont les archives municipales.
C'est les archives municipales.
Puisque Adeline, oui, qui est notre contact au départemental, a fait un petit sondage, oui, pour savoir s'il y avait, oui, des documents qui traitaient du sida. Elle n'a rien trouvé, à part une circulaire de police sur les CRS, donc comment ne pas se faire contaminer pendant une manifestation. Donc voilà, il n'y a que ça, les archives départementales. Donc je pense que ça doit être les archives municipales.
Oui, les archives municipales. Il y a des cartons du CRIPS, en tout cas, Ronald, ça c'est, qui ont été transmises aux archives municipales.
Bon, je suis Françoise Jardel, je travaille à la ville de Lyon, à la mission santé de la ville de Lyon. Voilà, et c'est vrai qu'on accompagne depuis très longtemps les associations de lutte contre le sida sur Lyon. Depuis les prémices, hein, puisqu'on avait commencé avec le docteur Gignoux, et il y avait très très peu, alors c'était pas que le sida, mais c'était la santé, il y avait quelques associations qui étaient financées, etc. Et puis ça a beaucoup pris d'ampleur depuis plusieurs années, avec l'arrivée d'autres élus à la santé, à l'époque de Sylvie Guillaume aussi, qui a beaucoup aidé à la lutte contre le sida, c'est vrai. Et puis maintenant, Céline Forêt-Gauthier, qui est l'élue actuelle à la santé à la ville de Lyon et qui est vraiment très motivée et concernée par toutes vos actions, voilà ce que j'ai envie de dire.
En fait, là, c'est vrai que l'idée aussi, c'est qu'en fait, nous, on soit très, très acteurs parce que c'est des vrais enjeux. Qu'est-ce qui va être gardé ou pas, hein? Vous avez peut-être entendu qu'en ce moment, il y a quand même des pétitions sur ce qu'a dit notre cher président et toute sa clique sur les archives. Bon, bah, pour finir, hein, comment est-ce qu'il a dit ça, Roméo? Ça prend de la place? Comment
il... Il faut garder l'essentiel.
Il faut garder l'essentiel. Donc nous, hein, on est l'essentiel. Donc on va garder l'essentiel, nous. Et comme on est l'essentiel, il faut aussi se faire reconnaître, en fait. Parce que ça va pas se jouer comme ça, en fait. Stones on a face is made of solid gold. When I hold your hand, I want to cry, and your loving arms to protect me from the cold. You are my world. You are my world.
Nous allons retrouver à présent l'association FRIS, au centre LGBTI, et toutes les personnes qui s'étaient retrouvées autour de cette soirée rencontre, autour de cette première exposition Archives égale vie.
Ce qui est passionnant, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, et vous l'évoquiez sur l'aspect de l'empathie et de l'écoute, en fait, c'est très créatif. On s'est posé la question si on allait faire quelque chose de très créatif cette année. C'est ce qu'on avait fait les années précédentes. Hein, on avait créé à partir d'objets. Et là, vous voyez, en fait, on les a laissés bruts. Enfin, on les a un peu capotisés. D'ailleurs, je remercie Alex qui a protégé les affiches. Donc, moi, je trouve que c'est important aussi que ce soit ici, voilà, dans nos lieux, dans nos backrooms, dans nos trottoirs, etc. Donc ici, il y a aussi plein d'autres personnes qui ont peut-être envie de prendre la parole. Est-ce que tu auras peut-être envie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce projet d'archéologie? Donc, ce qui est pas mal, déjà, je trouve que ce soir, ça laisse pas trop de traces. Quand on fait de l'archéologie du Moyen-Âge, des fois, c'est un peu poussiéreux. Là, c'est plutôt pailleté.
Bonsoir, moi, je suis Christine. Je suis membre du STRAS, le syndicat du travail du sexe. Donc, on défend les droits, on réclame des droits pour les travailleuses du sexe. FRIS, en nous invitant, nous permet de rappeler que les travailleuses du sexe ont toujours, depuis le début de l'épidémie, été actrices de la prévention. Et contrairement au stigma et à l'idée très répandue que nous sommes les réservoirs à microbes, dès le début de l'épidémie, les travailleuses du sexe, en imposant le préservatif à leurs clients, ont été actrices de la prévention.
Donc tu as amené une affiche chinoise?
Tout à fait. Et j'en profite pour remercier donc Tony, qui est le président du syndicat chinois des travailleurs du sexe, pour cette affiche.
Donc qui nous vient d'où alors cette affiche?
Eh bien, en Chine, il y a un très très gros syndicat de travailleurs du sexe. Et cette affiche, elle était à la conférence sur le sida à Durban.
Vous avez créé un espace cocooning très en vitrine, hein, voilà, c'est important.
Vitrine, vitrine, ça y est, qu'est-ce que j'entends?
Ça vous connaît les vitrines? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vitrine?
Alors tout d'abord, on a tenu à mettre le symbole de la lutte des travailleurs du sexe, le...
Parapluie rouge.
Donc c'est le parapluie rouge du NSWP, donc je suis l'élue pour l'Europe de l'Ouest. C'est le réseau mondial des travailleurs du sexe, qui essaye donc de regrouper tous les syndicats, toutes les organisations, pour échanger nos savoirs, nos pratiques, etc. Après, j'ai mis des affiches des associations de santé communautaire, parce que dès le début de l'épidémie, qui a permis la création des associations de santé communautaire, comme Cabiria à Lyon, j'ai mis aussi une affiche de Proud, qui est un syndicat de travailleurs du sexe en Hollande. Et puis une affiche de Entract à Lille. Et puis donc, comme on voulait créer en parallèle à l'hôtel des Sœurs un hôtel, on a voulu rappeler quand même que la religion, surtout en Afrique, en prenant l'abstinence et la fidélité, a quand même beaucoup freiné l'accès aux médicaments et a été responsable de beaucoup de contaminations. Et pour nous, surtout, l'Église et toutes les associations issues de l'Église abolitionniste ont beaucoup porté la loi de pénalisation des clients qui a été votée en avril 2016. Et nous, on constate, depuis le vote de cette loi, une précarisation des travailleurs du sexe, surtout migrantes, surtout dans la rue. Et que de plus en plus, parce que les clients savent qu'elles sont désespérées, elles acceptent des rapports sans préservatif. Et on note une reprise des contaminations. Par exemple, j'ai eu des échos que 2-3 personnes par semaine venaient demander des TPE, des traitements post-exposition, parce qu'elles avaient pris des risques. Parce que justement, quand on loge à l'hôtel, quand il faut manger, eh bien le client qui arrive à minuit, une heure, qui demande des rapports nature, on finit par dire oui.
On se sensibilise aujourd'hui, mais c'est aussi pour nos luttes présentes, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'archiver, de documenter ce qu'on fait aujourd'hui. Là, tu évoquais donc Durban, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que toi, le fait de participer à ce projet, ça... Tu te dis qu'il y a quelque chose à faire par rapport au STRAS? Est-ce que vous l'aviez déjà, vous étiez déjà sensibilisé à la dimension d'archives?
Moi, franchement, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait documenter nos luttes. Et c'est vrai que les jeunes militants qui arrivent, militantes qui arrivent, qui veulent nous rejoindre, ce serait bien qu'il y ait des archives. Je sais que le fonds LGBT nous a demandé des archives du STRAS. J'ai proposé les jolies banderoles faites à la main des premières manifestations. Mais je pense qu'effectivement, c'est important de documenter nos luttes.
Je m'appelle Alexis, du coup, moi je suis étudiant en lettres modernes à Lyon. Et du coup, cette année, je m'intéresse particulièrement à la littérature du sida, et donc j'en fais l'objet de ma recherche et de mes recherches futures. Et du coup, je m'intéresse à la même période, voilà, jusqu'à l'arrivée des traitements, et donc du coup, c'est assez intéressant d'avoir tous ces avis ce soir. Moi, je m'intéresse vraiment à la question du témoignage, et du coup, ça me donne envie peut-être de poser une question à l'ensemble des personnes qui ont intervenu. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus de recul? Qu'est-ce que ça fait de témoigner aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile?
C'est beaucoup plus métissé aujourd'hui. Alors que moi, j'ai souvenir que c'était très... Bon, par exemple, les gays que je représente aujourd'hui dans ma génération, on était très... on intervenait, on parlait beaucoup... Voilà, donc il n'y avait pas, par exemple, après les femmes sont arrivées, entre guillemets, progressivement. Après, il y a eu les usagers de drogue, donc c'était assez compartimenté. Alors qu'il me semble qu'aujourd'hui, par exemple, les travailleurs du sexe, dans les années 87, 89, même jusqu'en 2000, hein, je crois que Cabiria, de mémoire, on a dû monter en 2000, c'était vraiment... les relations entre associations n'étaient pas si solidaires, entre guillemets. Hein. Françoise a connu ça. En tant que représentante de la mairie, il y avait quand même... on va dire, il y avait des bagarres idéologiques, il y avait des questions de personnes, enfin c'était... Voilà, donc il me semble que je trouve moi qu'il y a beaucoup plus de une soirée comme aujourd'hui, il y a peut-être moins de monde, mais c'est plus divers quoi. C'est plus diversifié.
Moi, ça me fait un peu l'impression alors d'être un petit peu ce qu'a vécu mon grand-père, résistant féministe de la Seconde Guerre mondiale, où quand il me parlait et quand on allait ensemble à des cérémonies du souvenir, les gens qui étaient là, c'était des gens qui n'avaient pas forcément fait grand-chose, mais qui voilà, se découvraient un passé. Donc ce qui est amusant, c'est que tout à l'heure, tu évoquais hein, vos rapports avec les actopiens. Moi, j'étais actopienne. Quand j'entends des gens qui se disent « Ah, mais j'étais actop », je me dis « Ah oui, t'étais où, quand, comment ?» Et donc... c'est aussi un peu un moment bizarre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent comme ça, qui se découvrent une histoire, un passé. C'est... qui me questionne, en fait, c'est des témoignages, mais il y en a. Maintenant, c'est ce qu'on veut faire ici avec Free. C'est aussi permettre à des gens qui ne sont pas légitimes, qui n'ont peut-être pas les moyens en termes de classe sociale et autres, etc., oui, de pouvoir apporter. Parce que c'est ça, cette matière qui est extraordinaire. C'est ces personnes de proximité, ces personnes qui ont... tu as une invisibilisation, par exemple, de la mobilisation des lesbiennes, qui est très impressionnant. Heureusement, quelques gays commencent à faire des textes, que ce soit à San Francisco ou à Paris. On est très peu dans les représentations culturelles, alors que dans les associations et auprès des malades, et, c'était... notre élite, entre guillemets, a été très, très présente, et plus que ça. Donc... mais en même temps, où sont leurs témoignages, par exemple? Donc c'est intéressant, qu'est-ce qui se joue en fait dans le témoignage? Il se rejoue en fait tout un mécanisme en fait de s'autoriser ou pas, et c'est intéressant d'essayer de les exploser, ces autorisations.
Je suis arrivé dans les assos, j'avais 15 ans, j'en ai 35, donc voilà, j'ai un petit... Et il y a un truc que j'ai observé, c'est que, enfin, si je dois voir la différence, déjà c'était beaucoup plus violent, les mouvements, à cette époque-là. C'est-à-dire on sentait qu'il y avait une urgence. Aujourd'hui, on sent moins l'urgence. On sent moins l'urgence à tel point que, à plusieurs reprises, au cours d'entrevues officielles à la mairie de Lyon, mais aussi ici, les médecins m'ont clairement dit que oui, mais ces gens-là, ils sont soignés. Hein? Bah oui, ils sont soignés. Alors, il est où le problème? Hein? Donc, bon, déjà ça. Ensuite, il y a aussi un truc que moi j'ai vécu et que je pense que les jeunes vivent moins, c'est qu'en dehors d'une soirée comme celle-ci, il y avait un véritable passage d'une transmission, voilà, qui se faisait des aînés aux plus jeunes, et je trouve que ça ne se fait plus. Parce que je pense qu'il y a une vraie cassure entre les générations précédentes et les générations qui arrivent, qui n'existaient ou qui étaient plus lissées avant, tant sur le plan technologique que sur le plan culturel, que sur le plan de plein de choses. Et cette cassure fait qu'il y a beaucoup moins de dialogue autour d'un verre, où on aura moins tendance à inclure peut-être une personne plus ancienne ou que ce qu'on pouvait le faire à l'époque. Et du coup, il y a moins de transmission. Donc je pense que ces deux choses n'est pas forcément...
C'est effrayant, et c'est en même temps, c'est pas, je pense pas que ce soit des gens à blâmer, mais c'est juste qu'il y a, ça me dénote juste un problème qui est vraiment un manque de transmission en fait.
Mais moi j'ai eu des gens, enfin de l'âge, des âges qu'il y a ici, qui quand je suis arrivé dans les associations, m'en ont parlé, tu vois. Je suis arrivé, j'avais 15 ans, je vois des trucs, je comprends pas ce que c'est, et je pose des questions. Alors moi en plus j'ai une grande gueule, donc voilà, je pose des questions. Et ils m'ont donné les réponses. Bon, je suis aussi curieux, donc ça a joué. Mais ils apportaient les réponses et ils parlaient à tout le monde. Aujourd'hui, on va moins être... Quand quelqu'un passe la porte, on va lui dire « Alors, tu viens pour quoi? Est-ce que tu viens pour faire du foot avec tel asso? Ou est-ce que tu viens pour boire un verre avec tel autre ?» Mais à aucun moment, ou très peu, on va lui dire « Ouais, est-ce que t'as pris un risque ?» On va très peu en parler, finalement. Et ça a complètement changé. Avant, c'était une priorité, aujourd'hui c'est très secondaire, voire tertiaire dans notre démarche.
On n'a pas trop embêté, là on a commencé ce coin-là qui a causé quand même, et puis on arrive, ils sont presque sages depuis le début de la soirée, ils ont vite caché leurs notes, etc. Envie de partager quelque chose avant qu'on aille dans le bar et puis avant que Daniel nous fasse le mot de la fin.
Non mais je vous écoute échanger depuis tout à l'heure et du coup je pense un peu forcément à mon parcours entre guillemets. Moi j'ai 25 ans, je viens d'un milieu rural, c'est pour ça que tout à l'heure la question de la ruralité m'a parlé. C'est que En fait, le sida, moi, c'est une question dont j'ai entendu parler à travers les pubs, des discussions brièvement avec des amis, mais ça a toujours resté quelque chose de très... de très secret, finalement. Comme... C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est qu'on nous parle du sida, on sait que c'est une maladie, on sait que c'est une maladie qui a tué, mais c'est quelque chose qui reste quand même assez lointain. Et il y a peu de temps maintenant, parce qu'il y a la question du sida, mais il y a aussi la question de la sexualité qui va avec le sida. Et alors peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on est dans une société qui est quand même hyper sexualisée sur un certain versant. Et où à la fois parler de sexualité, parler de l'intimité, c'est hyper compliqué. Moi, je suis en formation d'éducateur spécialisé, je suis en troisième année, et la dimension de l'intime, de la sexualité, je l'ai découvert en faisant mon stage au CARUD de Posiabolo, par rupture. Et ça a été violent, je m'entends sur ce terme, mais même pour moi, de me retrouver confrontée à l'intimité de l'autre et à ma propre intimité, à me dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai du mal à dire le mot sexe, j'ai du mal à parler de sexe, j'ai du mal à parler de risque sexuel et donc forcément du sida. Du VHC aussi, c'est important pour moi d'en parler parce que l'hépatite, j'ai découvert que ça faisait partie aussi une maladie qui était très virulente, notamment pour les usagers de drogue. Enfin voilà, moi, toutes vos conversations, ça me fait penser à ça. Ça me fait aussi penser au fait qu'aujourd'hui, on a effectivement l'impression que le sida, ça se soigne, que ça se traite et que ça n'existe plus d'une certaine manière. Et qu'il y a peut-être une forme pas de facilité, mais pour les gens de se dire « je prends un risque, c'est pas grave, de toute façon, après, je vais prendre mon traitement et y a pas de problème ». Finalement, il y a de nombreux acteurs où on se rend compte, on essaye de travailler ensemble, mais je parle des acteurs associatifs, mais je sais pas à quel point l'impact chez les gens qui sont... plus ou moins éloignés de la question, qui sont pas forcément engagés, pas forcément politisés, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et ben, comment on rentre en fait en conversation avec ces gens-là? Comment on fait pour les intéresser? Parce que moi, aujourd'hui, je connais pas trop les associations. Je vois un fly passer sur cette soirée. C'est un fly de plus parmi un autre fly. Et qu'est-ce qui fait que je vais me sentir intéressé par la question, ou à quel moment je vais me dire merde, moi, où c'est que ça peut me toucher. Il y a toutes ces choses. Et le fait que dans nos formations, on n'ait absolument aucun apport sur, ou très peu, sur les questions de la sexualité, alors qu'on est des futurs travailleurs sociaux, et qu'au même titre que les médecins ou les aides-soignants, on va rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui prennent des risques ou ont envie d'avoir une sexualité ou ont des questions sur la sexualité et comment on les accompagne nous aussi là-dedans quoi. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de formation qui est urgente encore aujourd'hui, je pense.
Donc moi c'est Quentin, je suis la capitale qui se considère comme la seule capitale, hein. Mais de base pas du tout, je viens de Strasbourg, j'ai fait mes études à Lyon, donc je suis ce qu'ils appellent là-bas un provincial, hein. et du coup cette année je suis à Paris pour mes études, hein, après avoir un peu voyagé, et à Paris en ce moment, ouais, il y a ce projet qui se monte d'essayer de créer un centre d'archives, etc. C'est un vieux projet qui essaye de se monter depuis plus de 15 ans. Et en fait, ce que moi je trouve intéressant, c'est que Isabelle, tu remets toujours l'accent sur les archives et tout, parce que c'est quelque chose qui va pas de soi, quoi. Parce que d'un côté, on pourrait se dire, tout le monde est d'accord, c'est important, l'histoire c'est important, la mémoire c'est important. Et en pratique, à Paris, ça fait des années que ça essaye de se monter, centre d'archives, et que ça marche pas. Et que du coup, tout ce travail-là qui est gigantesque et super important, ça retombe sur des bénévoles, ça retombe sur des gens à qui on donne pas les moyens et on donne pas les ressources, etc. pour le faire. Moi je suis venu ici en fait pour essayer d'en apprendre plus sur ce travail-là en fait, d'archivation, d'archivage et tout. Parce qu'en fait, il y a plein de difficultés qui apparaissent toujours dès qu'on s'y frotte, quoi. À Paris, ce qui a quand même ralenti le projet, c'est les assos étaient super divisés. La mairie était évidemment pas partante, mais je veux dire ça évidemment, quoi. c'est pas la mairie qui va faire le boulot. On n'arrive pas, enfin, on se pose des questions de comment représenter tout le monde, comment inclure tout le monde. Et là, la grosse question qui se pose en ce moment aussi, c'est du coup, ce centre d'archives à Paris, ça se présente comme un centre d'archives national LGBTQI. Et du coup, il y a presque que des Parisiens et des Parisiennes. Et du coup, il y a les petits, des petites provinciales dans l'assaut qui sont là, genre, mais en fait, les assauts de province n'ont pas besoin de vous. Et du coup, en fait, on essaye de réfléchir à tous ces trucs, genre, ces solidarités et tout. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Et parce que tout ce travail qui se fait ici, c'est super intéressant. Et en fait, de se demander, voilà, comment est-ce que ces mémoires, on peut les partager aussi? Qu'est-ce que ça apporte à Paris, par exemple, de faire des rencontres comme celle-là, ou peut-être qu'on va parler de toutes les assauts dont on a parlé, de Lyon, des pentes de la Croix-Rousse, etc., et de faire circuler cette mémoire, hein. Parce que je me rends compte aussi que ce soir, bah, en fait, parler de cette mémoire et la faire ensemble, en fait, hein, c'est aussi nous rencontrer, quoi. Nous créer une communauté, nous retrouver et tout. Et...
Je travaille à la bibliothèque de Lyon. Où, donc on parlait du fonds Chaumaret, il y a un fonds d'archives, la bibliothèque, qui est assez précieux, etc., et qui prend un peu la poussière, on va dire. Et du coup, en février dernier, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait sortir tous ces documents du fonds pour faire de la médiation autour, faire des expos, peut-être faire aussi inviter des artistes, faire des projections, etc. Du coup, on a fait une première rencontre en février à la bibliothèque. Et c'était un succès. Enfin, il y avait beaucoup de gens, assez jeunes, pas mal d'étudiants, enfin, beaucoup de militants, militantes lyonnais. Et du coup, on voulait retenter l'expérience l'année prochaine, en avril, avec Roméo, du coup, parce qu'on sait, quelqu'un nous a rencardés, parce qu'il savait qu'on était des deux gros rats de bibliothèque et d'archives, etc. Moi, c'est un truc qui me... Ouais, j'aime trop le papier, etc. Et je pense qu'il y a un lien aussi avec le numérique, parce que, je sais pas vous, mais moi, j'ai perdu plein de photos avec des disques durs qu'on grillait et des ordi qu'on fondu, etc. Du coup, j'ai... Enfin, plein d'archives perso, en tout cas, que j'ai perdu, et du coup... Voilà aussi comment travailler avec ça, comment travailler avec les outils numériques et peut-être revenir du coup à l'impression, peut-être faire refaire des brochures, refaire des tracts, refaire des affiches, réactiver un peu toutes ces traces-là qu'on a sur les disques durs. Du coup, on a un peu toutes ces réflexions-là avec Roméo.
Alors, je suis pas très très à l'aise à l'oral, mais je vais faire de mon mieux. Donc moi, je suis Nadège, je suis aussi en troisième année d'éducateur spécialisé. Donc, je pense pareil que toi. En formation, on a pas beaucoup de cours en fait sur la réduction des risques, sur tout ce qui est VIH et SIDA. Je pense que aujourd'hui, on est plus sur, on veut guérir au lieu de prévenir. Et je pense qu'on a une désinformation totale, que ça soit en institution ou en formation. Moi, j'ai fait mon deuxième stage en MEX, donc c'est une maison d'enfants à caractère social. Et j'ai été amenée en fait à voir que ces adolescents n'avaient aucune connaissance en fait de tout ce qui était au niveau rapport sexuel. Donc ils pouvaient confondre par exemple tout ce qui était sodomie et pénétration, enfin vaginale. Qu'au niveau de tout ce qui était en fait par rapport à la religion, tout ce qui est contraception est très tabou. Et ce que j'ai pu déplorer en fait, parce que je pense que... La contraception, c'est déjà un droit de femme, tout simplement. Ça nous protège donc de tout ce qui est IST. Et que la religion, ou certaines mentalités, et même tout simplement l'influence masculine, peut amener des femmes à ne pas se protéger, se mettre en danger elles-mêmes. Et voilà. Et je pense que... comment dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de tabous et que le sida fait peur parce que je pense qu'il y a une grande ignorance, qu'on a peur d'en parler et que je trouve ça dommage parce que c'est à travers l'échange et les témoignages qu'on peut réfléchir ensemble pour informer, pour transmettre, enfin... Cette question de transmission, je trouve ça très important. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Donc j'ai deux micros en face de moi. Et oui, et aujourd'hui, en fait, tout simplement, je pense que, de mon opinion, on pense plus au traitement, à traiter la maladie, au lieu de tout simplement en fait, prévenir, de dire qu'il y a des moyens de contraception, que on peut avoir des comportements à risque. Et enfin voilà, je pense que... Et cette notion en fait, d'archives, moi, ces affiches, je ne les connaissais pas. Au niveau de tout ce qui était prévention, moi, c'était au collège, parce que je suis assez jeune aussi, je n'ai que 23 ans. Et donc, c'était plus sur la contraception, mais par exemple, on ne savait pas comment les mettre, ou où ça se trouvait. C'était vraiment très survolé. Et ce que je trouve dommage, en fait, tout simplement.
Moi, je m'appelle Benjamin et je suis le secrétaire d'Omega, qui est la chorale masculine qui répète au centre tous les lundis. Et du coup, je suis venu ici ce soir parce que je suis né en 88, donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles certaines des archives sont plus vieilles que moi. Et il y a beaucoup de choses qui me sont passées au-dessus de la tête quand j'étais petit. Donc il y a des choses que je découvre sur un peu notre histoire. Et je considère qu'en tant que responsable associatif, c'est aussi notre devoir, même si on est une chorale et qu'on est là pour venir en soutien sur d'autres assos, c'est aussi notre devoir d'être informé et de pouvoir aussi transmettre des choses, même si ce n'est pas notre vocation première. Et en écoutant ce que les gens disaient tout à l'heure, il y a une chose qui m'est revenue en tête, parce que je creuse depuis tout à l'heure pour essayer de me rappeler quelle est la première fois que j'ai entendu parler du sida. Et il me semble que c'était en cours de SVT. Et du coup, je pensais dans les archives qu'il y a peut-être aussi, ça peut être intéressant de regarder la manière dont le VIH et le sida sont abordés dans les manuels scolaires, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Et manifestement, on voit que chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, même s'ils passent par cette case, ça leur passe complètement au-dessus. Et moi, ce que j'en avais retenu, en tout cas, c'était quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, qui est un peu la peur panique où on confond tout, alors qu'on étudie les mécanismes de transmission quand même de manière assez poussée, mais que finalement, on en fait une soupe dans notre tête et que ça devient juste quelque chose qui fait très peur et qu'en fait on étudie que du point de vue de voilà le fonctionnement normal d'une cellule, voici comment un virus s'attaque à une cellule et c'est tout. On parle pas de maladie, on parle pas des personnes, de comment ça les affecte, de comportement, de la vraie vie. On parle que des cellules en fait à ce niveau-là. Et c'est peut-être pour ça que ça nous passe complètement au-dessus.
La mémoire, c'est bien. Moi, enfin, à Frise, on est à fond là-dedans, mais on est aussi alors sur une attention prioritaire envers les minorités invisibilisées. Vous avez l'affiche La transphobie tue, pas le dépistage. Il a fallu attendre 2011 pour que l'association Outrans, qui est parisienne, ait cette affiche de financée par l'INPES. Nous, on a deux associations trans au centre, Chrysalide et le Jardin d'été. Sur l'ensemble des contaminations des personnes trans, c'est à peu près, selon les enquêtes, méta-enquêtes, analyses au niveau mondial, c'est 19% de la population trans. Sur la France, ça serait 6%, mais parmi ces 6,9%, vous avez 46% de femmes trans étrangères, d'origine étrangère, qu'elles se prostituent ou non. Et c'est quand même quelque chose qui devrait réactiver nos luttes envers ces publics qui sont parmi les plus invisibilisés. Voilà. Et puis, je voulais vous remercier d'être venus, d'avoir été attentifs et participatifs et tives. Muriel Gay.
Merci de nous avoir écoutés ce soir. Il s'agissait donc d'une émission consacrée au grand projet mémoriel Archives égale vie, initié par l'association FRIS. Et je vous tiens aussi à remercier Bernard, qui a effectué au Centre LGBTI la prise de son de cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à 20h pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Très bonne soirée.